Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, je dois dire en commençant que j'ai reçu samedi la visite d'une charmante auditrice de Radio Libre en Périgord qui est venue voir, qui habitait pas très loin d'ailleurs, et qui est venue voir un peu comment je travaillais, quelle était l'ambiance. Voilà. Alors, je la remercie bien sûr de sa visite et je lui dédie cette émission. Alors cette émission, on va reprendre un peu le Périgord. Alors c'est un livre de Bernard Stéphane dont on a parlé, je crois, au mois d'avril et qui est édité par Christine Bonneton en 2021. Donc c'est un livre récent et c'est le Périgord sans lieu pour les curieux de Bernard Stéphane. Alors bien sûr, il y a toujours une quatrième de couverture. Alors ce qu'on nous dit, venez goûter la verte douceur des soirs sur la Dordogne, visitez la cité aux sept clochers, véritable villa souterraine, jouir des panoramas qu'offre le château de Beynac, et vous repaître de la merveilleuse cuisine de ce pays de cocagne, sur les traces des chasseurs-cueilleurs, au temps de Cro-Magnon. Vous découvrirez de nombreuses grottes ornées ou gravées, pépites ou lieux sacrés, mais aussi des chapelles, des transfalaises, des mammouths, des géants et autres curiosités inattendues. Vous marcherez sur les pas de Pierre de Bordeil, le Galanton, Fénelon, le Beauparleur, Montaigne le Sage, Jacou dans l'étendeur, flatte toujours. Vous franchirez toutes les époques sans vous lasser, qu'elles ont toutes semé des trésors, le Périgord vous attend. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un livre qu'on avait déjà évoqué, je crois, au mois d'avril. Alors, on va quand même pas ignorer le château des Milandes, qui se trouve à Castelnau, la chapelle. Alors, il y a un dessin de légende, bien sûr. Alors, dans la vallée, en rive gauche de la Dordogne, le château des Milandes regarde son fier voisin Beynac, altier sur la falaise de la rive droite. Mais ce qui fait l'originalité de cette villégiature renaissance de la fin du XVe siècle, c'est l'incroyable compagnonnage entre ce lieu et une hôtesse aussi extraordinaire qu'improbable qui s'installa au milieu du XXe siècle. La danseuse de music-hall, chanteuse rendue célèbre par la revue Nègre, Joséphine Baker, métisse originaire du Missouri, s'entissa de ce château en 1947. Elle allait y faire une partie de sa vie avec son mari, le chef d'orchestre Joe Bouillon. Mais la particularité de la séquence périgordine de l'artiste qui mena un combat contre le racisme et s'engagea activement dans la résistance, c'est le village du monde qu'elle créa sur les rives de la Dordogne avec sa tribu arc-en-ciel, celle qui avait adopté 12 enfants de religions et origines différentes, voulant démontrer que malgré les disparités, on peut vivre en communauté de façon harmonieuse. Joséphine Baker militait activement toute sa vie pour les droits civiques aux États-Unis. Elle fut la seule femme à prendre la parole au meeting géant et légendaire de Martin Luther King en 1963, lançant son fameux « I have a dream », « J'ai fait un rêve », on dit en français. Le château consacre tout le parcours public de la vie de cette femme qui a laissé ici l'histoire d'un destin de légende. Voilà. Alors, on va continuer un peu de parcourir le Périgord et on va aller au château de Lanquet. Alors, bien sûr, il se trouve à Lanquet, donc la ville du même nom. Alors, ce château est baptisé le Louvre du Périgord. Et il y a de très belles photos, d'ailleurs, qui le représentent d'intérieur et extérieur. Le château de Lanquet, l'usage du pluriel serait probablement plus juste. En effet, deux châteaux sont accolés, balayant ainsi plusieurs siècles. D'abord un château fort qui conserve les attributs défensifs, puis un logis renaissance à l'élégance des palais italiens. La distinction est facile avec la grosse tour à mâchicolis, illustration de la partie défensive. Quant à la façade renaissance, l'usage ou la légende dit que les bâtisseurs ont voulu en faire une copie du palais du Louvre, d'autant que les architectes étaient les mêmes qui avaient construit l'aile renaissance du palais des rois des bords de Seine, d'où cette appellation le Louvre inachevé du Périgord. À leur naissance, les apports du gothique ponctuent le palais, dont les exemples, les voûtes en palmier au sommet d'un grand escalier, vous serez subjugués par la puissance et la finesse des cheminées, quelques éléments du savoir-faire des artisans maçons d'antan. Alors, bien sûr, tout cela est à remarquer, comme le sol empisé du rez-de-chaussée, le dallage des cuisines, mais la grande surprise est de trouver dans le riche ameublement, ici tout est dans le foisonnement, meubles, tableaux, objets, le temps à accumuler, le beau mobilier, les cabinets à maqueterie, les tentures en velours, des lits, les porcelaines, les crédences, la batterie de cuisine, dans la cuisine évidemment, le château distille l'atmosphère d'un mystère ayant croisé son destin avec le personnage d'Isabelle de Limeuil qui fut l'hôte au XVIe siècle, alors la belle espionne Catherine de Médicis, mais aussi la cousine, et pour le final, il y a la légende des souterrains qui conduirait des caves jusqu'à 7 km de là, sur la rive gauche à Dordogne, un échappatoire qui nourrit l'imaginaire des visiteurs. Alors ce château de Lanquet, ben, je l'ai visité un peu, comment je peux dire, parce qu'il ne se visite pas en réalité avec les propriétaires, et c'est en indivision, donc avec les propriétaires, et dans mes souvenirs, j'ai d'avoir bu un excellent Montbazillac sur une des tables qui, m'a dit-on, avait servi à l'île des Faisans pour signer l'entente franco-allemande. Alors, bien sûr, c'est au temps de Louis XIV. Alors, Louis XIV était bien sûr représenté par Mazarin et Louis de Haro représentait l'Espagne, donc à l'île des Faisans, qui est la rivière qui sépare la France de l'Espagne. Voilà. Alors donc ça c'était un souvenir tout à fait personnel. Et le Montbazillac, à mon souvenir, était quand même très bon. Alors, il y a un petit appendice aussi. Alors, à voir aussi la grange de Lanquet. Alors, au pied du château, cette ancienne grange bâtisse imposante du XVe siècle est recouverte d'une vaste toiture très pentue reposant sur une charpente à trois nefs. Elle aurait au cours des temps été grange d'immières, temple protestant, étable, chez et hôpital, reprise par l'association des Amis de Lanquet. Elle est aujourd'hui un lieu culturel où ils sont organisés des concerts et des spectacles théâtraux. Voilà, alors, on va repartir un petit peu aussi, on va revenir un peu quand même dans le Périgord noir avec l'abri du Cap Blanc. Alors, il y a une petite précision qui nous dit que les entrées quotidiennes sont limitées. Alors, donc, il y a un bestiaire sculpté, et puis il y a un très joli dessin qui est la reconstruction de la vie quotidienne dans l'abri du Cap Blanc sur le site préhistorique. Alors, voilà ce qu'on nous dit de cet endroit. Alors, situé quasiment en face de Comarque, de l'autre côté de la vallée, l'abri refuge, illustré d'une fresque de sculpture profonde d'animaux gravés dans la paroi rocheuse, un bestiaire de chevaux, mais aussi de bisons et de rennes vieux de 15 000 ans. Des hauts et bas-reliefs d'animaux sculptés quasiment grandeur nature font de ce site un monument historique. C'est un abri humble, comme il s'en ouvre des centaines le long des falaises de la vallée de la Vézère et des Bennes. Ici, l'homme a trouvé refuge et ce fut un lieu de vie quotidienne. Il a gravé cette scène animalière sur la paroi. Elle était même peinte, a-t-on affaire à un sanctuaire, un lieu de culte, à l'animal, un site incroyablement simple. Pourtant là, on perçoit une puissance qui renvoie au ministère des temps anciens. Le visiteur verra une frise sculptée, monumentale avec chevaux et bisons qui sont les principaux acteurs de ce décor. Un véritable chef-d'œuvre au cours de la visite. On vous comptera la mise à jour du site, la technique des fouilles, la découverte en 1909. Découverte qui ne fut pas très orthodoxe d'ailleurs, et les figures des pionniers de la préhistoire entre Vézère et Ben, qui furent Denis Peyroni et le docteur Capitan. Alors, donc comme je disais, il y a un très beau dessin qui nous dit sur le site de l'abri du Cap Blanc, reconstitution d'une tête de cheval gravée dans la pierre de la falaise. Alors, l'abri du Cap Blanc, ben, je me souviens d'avoir visité il y a quand même quelques années de cela. Alors, il y a bien sûr d'autres choses à découvrir dans ce livre. Il y a bien sûr la vallée des Bennes, puisqu'on était dans les Bennes, on va y rester. Alors, bien sûr, alors ils nous disent que le renseignement, c'est la mairie de Tagnès. Alors, il y a un titre, le berceau du pays de l'homme. Est-ce un des plus beaux endroits du monde, si l'on en croit l'écrivain Pierre Michon? Il se pourrait bien. Il y a trois bennes de ruisseaux formant la petite et la grande, sous tous trois affluents de la Vézère, qui est vrai. Il est vrai que le toponyme lui-même désigne un ruisseau. On est au cœur du Périgord et de la préhistoire. Les trois vallées cachent une densité incroyable de grottes ornées dont quelques rares accueillent encore le public. Les trois ruisseaux courent entre les falaises percées d'Abris-sous-Roches, les fameux Clusaux, qui sont d'autant de refuges mille fois occupés au cours de l'histoire de l'humanité. Leur perché est perché sur un tertre à la rive droite de la Grande Bonne, le village de Tagnès est signalé par un clocher carré de son église du XIIIe siècle, couverte de toitures typiques en lauze noire. Un gros travail associatif a été conduit ces dernières années pour restaurer le petit patrimoine rural de la commune. Architecture vernaculaire, témoin les cabanes de pierre sèche, les lavoirs du XIXe siècle font un retrouver sous la végétation les murets de pierre héritées de la division agraire, les pentes à l'époque des vignobles antérieurs au phylloxéra. Et oui, le phylloxéra, ça a quand même été quelque chose de catastrophique pour la Dordogne. Et en partant du village, plusieurs itinéraires de randonnée pédestre permettent de découvrir la vallée de la Grande Benne, les sentiers offrant cette exploration pour appréhender un paysage qui a été façonné par l'homme depuis ses origines. Alors il y a bien sûr de très belles photos. Il y a, il y a un petit chapitre qui nous dit à lire, l'écrivain Pierre Michon a situé une de ses aventures romanesques dans ce paysage, dans un très court roman La Grande Benne, édition Verdier, qui raconte ainsi le quotidien d'un instituteur seul en poste pour sa première affectation dans une école rurale au cœur de ce Périgord noir. L'écrivain a ciselé des personnages qui sont d'autant d'acteurs d'un décor qui renvoie à l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, je dois voir ça à la bibliothèque. Je crois qu'on a déjà parlé il y a quelque temps. Alors, il y a bien sûr des illustrations. Il y a une cabane en pierre sèche sur une pente de la vallée des Bennes. Et puis à droite, le château d'Aucède, qui est privé, émerge de la forêt des vallées de la vallée des Bennes. Voilà. Alors, et un petit paragraphe à savoir, plusieurs grands sites s'ouvrent dans les Bennes. Le château de Comarque, ouvert au public. L'abri du Cap Blanc, qui est également ouvert au public. Le château d'Aucède, alors ça, comme je disais, c'est privé. L'abri de la Grèce, qui est privé aussi. Alors, si vous avez l'occasion de visiter la grotte de la Grèce, c'est pas très grand. Et il y a un bison sculpté qui est assez curieux. Et donc, si vous avez l'occasion, vous pouvez peut-être y aller demander aux personnes qui ont la clé de vous ouvrir cette petite grotte. Alors, il y a la grotte de Bernifal, ouverte au public, la grotte de Combarelle, ouverte pour visite en nombre limité, la grotte de Font de Gomme, visite quotidienne en nombre limité, et le roc de Cazelle, qui est un parcours pédagogique. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses dans ce livre. Il y a Puy-Guilhem, on va repartir un peu. Alors, il y a le château de Puy-Guilhem qui se trouve à Villars. Alors, il y a bien sûr, il y a un petit rajout à voir aussi. Alors, derrière le château s'ouvre une ample allée de tilleuls classés. Un sentier balisé mène en quelques pas à un grand pigeonnier dressé dans la pente au-dessus de la petite vallée. Entrez et comptez les boulins, les loges de pigeons. Le nombre de boulins correspondait au nombre d'hectares et de bonnes cultures du domaine du château. Il y a quelques très belles photos. Donc du château de Puy-Guilhem que j'ai visité il y a quelques années, mais il y avait sur les fenêtres du haut, eh bien, il y avait quand même un nid de frelons qui valait mieux éviter. Alors, là on nous dit à gauche, inscription latine du plus haut d'une tour, et puis ci-dessous le château au début du XVIe siècle est très influencé par la passion italienisante du temps. Voilà. Alors, mais je crois que le temps qui m'est imparti est terminé. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine, pas trop fraîche, et à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.